Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute. Bienvenue, tu écoutes l'épisode 13 de Post Boost, les clés de la relation manager et RH. Quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'on lui explique que l'on travaille dans les ressources humaines, les réactions sont souvent identiques. Je te propose de choisir ta réponse préférée parmi ces trois options, mais je suis sûre que je suis dans le vrai. On peut te répondre « tu vires les gens », « tu embauches les gens » ou « tu fais la paye ». Alors je crains que la fonction RH figure malheureusement parmi les métiers les moins appréciés des Français. Pourtant, sans RH, une organisation de travail aurait beaucoup de mal à fonctionner. Être RH, c'est être la courroie de distribution entre la direction, les managers et les salariés. C'est un job riche et enrichissant, c'est vrai, mais souvent, on peut avoir la sensation d'être entre le marteau et l'enclume et même d'avoir le cul entre deux chaises. On ne naît pas RH, on le devient. J'ai moi-même travaillé dans une école de ressources humaines. Alors je sais que l'on forme à la technique, à la réglementation, mais on ne forme pas assez à la posture. Celle qui nous permet de trouver sa place dans une organisation de travail. Celle qui nous permet de rester fidèle à nos valeurs et celle qui nous permet de jouer les équilibristes entre les demandes de sa direction, celles de ses managers et celles de ses salariés. Cette semaine, j'accueille dans Post Boost Delphine Pecot. Delphine est partenaire RH freelance. Après plusieurs années en tant que RRH dans le domaine de la logistique et de la distribution agroalimentaire, Delphine est aujourd'hui RH en temps partagé. Et devinez d'où ? De Pune, en Inde, depuis 3 ans. Delphine nous partage aujourd'hui sa vision de la fonction RH. Alors peut-être tu vas te reconnaître dans la vision de Delphine, à 100%, à 50%, ou peut-être pas du tout. Mais moi, ce que j'ai aimé dans cette rencontre et dans nos échanges, c'est que Delphine donne plein de conseils. Alors pas des usines à gaz, hein, des conseils pleins de bon sens, ceux que l'on a souvent tendance à oublier. Et tu le sais, Post Boost, c'est pas de blabla, que du concret. C'est parti pour le sujet du jour, les clés de la relation manager et RH. Bonjour Delphine Pecot, bienvenue dans Post Boost.
Bonjour Aurélie.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien, et toi ?
Très bien, parfait. Quelle heure est-il en Inde ?
Quelle heure il est ? Il est 13h30.
Très bien. Fait-il beau en Inde ?
C'est encore un peu la mousson, donc là, il pleut encore pas mal. La température est correcte, mais on a beaucoup de pluie.
Ok, ben voilà, ben, nous c'est lundi, et il fait pas beau, il fait gris, et du coup, c'est cool d'avoir un petit point météo de Pune, puisque tu es en Inde, à Pune, pardon, depuis 3 ans.
Pune, ça se prononce Pune.
Eh ben, ouais. Bien, en direct de Pune et de Lyon, du coup, je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. Alors, moi, je te connais un peu dans l'intro, j'ai un petit peu expliqué qui tu étais, mais ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques mots.
Alors, bah, du coup, bah, moi, je suis Delphine, je suis quelqu'un d'un tempérament plutôt passionné, mais toujours en recherche de ses passions. J'ai un côté aventurière, j'ai beaucoup voyagé, d'ailleurs, je vis en Inde actuellement, comme tu l'as dit. Et sinon, bah, c'est peut-être ce qui nous intéresse peut-être le plus ici. J'ai toujours travaillé en tant que RRH, une vraie généraliste du métier. J'étais salariée avant et depuis 2020, je suis en freelance sur des missions de conseil RH et des DRH externalisées et 100% à distance du coup, puisque je réalise ces missions depuis l'Inde.
Ok. Et du coup, les RH, c'était un vrai choix de carrière pour toi quand tu as commencé ?
Alors, au niveau de mes études, c'était un non-choix. Je ne savais absolument pas quoi faire et du coup, bah, j'ai fait les mêmes études que ma grande cousine que j'aimais bien, hein, pour être tout à fait honnête. Mais par contre, pendant mes études, ma spécialisation en RH était un choix. Et puis, chercher un poste opérationnel en entreprise aussi, parce que j'étais bah, attirée par ce côté humain de RH et tout ce côté relationnel du métier qui me plaisait plus que de la finance ou du marketing, notamment, qui étaient les autres voies principales où menaient mes études.
Ok, tu avais fait une école de commerce, c'est ça ?
Ouais, une fac d'éco-gestion.
Ok, et tu t'es spécialisée en RH ?
Ouais.
Et tu as travaillé, et tu travailles toujours depuis très longtemps dans la RH, du coup ?
Bah ouais, plus d'une douzaine d'années maintenant, ouais.
Ouais, tu as travaillé dans plein de secteurs différents, je crois.
Oui, j'ai travaillé. Mes plus importantes expériences sont chez un gros groupe du transport et de la logistique en France, enfin, en France et en Europe, et chez un distributeur agroalimentaire aussi, en France et en Europe.
Ok, cool. Donc, tu es une vraie experte des RH opérationnels. Et moi, c'est ce qui m'intéressait dans le fait de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet sur lequel tu prends pas mal la parole aussi et tu agis beaucoup avec tes clients entreprises. C'est les clés de la relation entre un manager et ses RH. Alors, je le disais en intro, c'est vrai que la place d'une RRH, puisqu'on est souvent des femmes quand même, elle est souvent complexe à trouver dans une organisation de travail. Et du coup, la première question que je voulais te poser, c'était quel conseil tu donnerais à Delphine quand elle a débuté sa carrière de RH?
Oui, alors là, ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quelques conseils de plus que juste à te lâcher dans le grand bain. Je vais en sélectionner... 5 conseils que je vais partager aujourd'hui. Le premier, et c'est pour moi le plus important, c'est de connaître sa population, ses équipes, son périmètre, connaître humainement, je veux dire, les personnes. Donc, sortir de son bureau, aller suivant la culture d'entreprise, serrer la main, dire bonjour avec un coucou de la main, planifier des one-to-one. C'est important parce que c'est ces moments-là où on va du coup connaître mieux les personnes qui sont finalement l'objet quelque part principal de notre fonction. Et plus on les connaîtra, plus on les comprendra et plus on se sentira légitime et impactante dans l'exercice de nos missions. Donc ça passe aussi par énormément d'écoute. Et réciproquement, plus nous on va se faire voir et plus on va aller vers toutes ces personnes, plus eux vont nous connaître aussi et plus eux nous feront confiance. On n'est pas des gratte-papier de Tour d'Ivoire quand on est responsable RH ou des RH ou peu importe le rôle en fait en entreprise.
Ok, ça aide du coup à créer la confiance mutuelle finalement, ce premier point.
Tout à fait.
Ok, cool. Bon premier conseil.
Le deuxième point, c'est d'être authentique. Je vais reparler de confiance encore une fois, mais pour moi, c'est un fil rouge dans le métier. On se méfie souvent des RH, tu l'as dit en introduction. Et en plus, les RH, on sait qu'ils savent plein de choses sur tout le monde, etc. Donc, un point important, c'est d'être soi-même. Parce que si on n'est pas soi-même, on va susciter la méfiance encore plus. Déjà, notre fonction fait que les gens se méfient de nous. Ils pensent qu'on nous attribue des pouvoirs extraordinaires de vie et de mort sur le contrat de travail d'une personne. Qui est quand même un mythe. Mais surtout, du coup, c'est important de se connaître, de connaître ses forces, de s'appuyer dessus, d'être authentique et rester fidèle à soi-même. Parce que si on ment sur qui on est, on ne suscitera pas la confiance derrière.
Ok. Donc, ton deuxième conseil, c'est être soi-même.
Oui. Le troisième, qui va paraître un peu conseil de cours de récré, mais en fait, c'est hyper important, c'est de ne pas rentrer dans les ragots. À part peut-être avec son équipe RH ou ses homologues, parce que parfois, on a besoin de lâcher un peu la pression. Mais ce qui est important, c'est que quand on est dans une équipe RH, on représente la confidentialité. On ne parle jamais du dossier individuel d'un salarié avec un autre salarié. Bon, à part avec son manager, parce qu'on est dans un cas spécial, mais en tout cas, pas avec un salarié pair. Ce qui est important aussi, c'est de surtout pas juger. Parce que si on commence à partager nos jugements sur les autres salariés, avec les uns avec les autres, eh ben, on va être identifié comme une personne qui juge. Et donc ça risque aussi de nous porter préjudice. Par contre, on a le droit d'avoir des opinions. On peut, dire qu'un collègue, quand il a eu telle réaction, oui, je n'en sais rien, ça m'a choqué. Je comprends pas. Je me demande ce qui s'est passé pour qu'il réagisse comme ça. Par contre, aller dire, mais lui, c'est qu'un con. De toute façon, si tu avais vu son entretien annuel, bon, voilà, ça on évite quoi. On peut rester light, mais pas être dans le jugement et dans les ragots. Ce sera que préjudiciable.
On en parlera sans doute après, mais j'imagine que tu as des techniques justement pour ne pas se laisser trop influencer ou se laisser manger par ces biais de jugement, et c'est assez compliqué parce que On est le réceptacle de la parole d'un salarié, on est le réceptacle de la parole de son manager. Et au milieu, comme souvent, on est un peu le cul entre deux chaises, entre Jean-Paul qui dit que Jean-Mi a dit que, et Jean-Mi qui dit que Jean-Paul est un mauvais manager. Et toi, tu es au milieu et tu dis « Ok les gars, comment on fait maintenant pour arriver à trouver une solution sereine ?» Donc, ouais. Le deuxième conseil, du coup, c'est à la fois d'être de vraiment respecter la confidentialité et de ne pas juger. C'est bien ça pour ton deuxième conseil ?
Ouais. Exact. Ouais, pas rentrer dans l'irago. Le quatrième, c'est d'être curieux. Alors, c'est peut-être un conseil qui vaut pas que pour les RH, hein, d'ailleurs, hein, mais je pense que et qui vaut tout au long de sa carrière aussi. C'est être curieux envers le business de l'entreprise et être curieux envers son propre métier. C'est-à-dire que je pense que pour être un RH qui a un vrai rôle d'influence et qui met en place et qui délivre des choses qui sont impactantes, il faut connaître le business, l'organisation, les métiers de la boîte, montrer qu'on s'y intéresse, dire quand on ne sait pas pour justement qu'on vulgarise, parce que parfois ça peut être technique, donc on a besoin qu'on nous vulgarise les choses pour bien les comprendre. Ça va nourrir aussi ce que nous mettra en place au travers de différentes actions, de la marque employeur. Et puis, ça nous rendra encore plus légitimes pour pouvoir conseiller les managers et les dirigeants lors des échanges qu'on aura avec eux. Et le point aussi, c'est d'être curieux sur son métier. Alors moi, par exemple, je suis généraliste, donc je suis experte d'aucun domaine, mais je sais aller chercher et creuser les informations sur tous les sujets, en fait, RH. Et en plus, si je peux donner un conseil supplémentaire, et c'est pas facile quand on est en entreprise, parce que c'est dur de libérer du temps, mais de faire de la veille, parce que c'est ça aussi qui va vous alimenter sur votre expertise et l'entretenir dans le temps.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, Delphine, parce que souvent, quand on est RH, on reste concentré sur le quotidien. Son quotidien, c'est la gestion des projets au long cours. On arrive en période de fin d'année, ça peut être, par exemple, les entretiens annuels, les entretiens professionnels, et c'est souvent très compliqué de faire ces entretiens si on n'a pas soi-même de vision sur la suite, sur les projets à venir, etc. Quels conseils tu pourrais donner pour développer un petit peu cette veille business dans l'entreprise?
Le premier, ça se joue lors de l'intégration. Le point prioritaire, c'est vraiment d'avoir un parcours métier quelque part. Pourquoi pas aller se mettre en shadowing, quoi, en binôme avec certains collaborateurs. Et ça, c'est ce qui permettra d'avoir le plus d'infos. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en tant que RRH sur un entrepôt logistique, j'ai passé une matinée à faire de la préparation de commandes en chambre froide à moins 25. Donc, c'est-à-dire que là, tu vis vraiment ce que vivent tes gars, quoi, les équipes que tu vas pour lesquelles tu vas apporter un support RH. Et après, il y a des métiers qui sont peut-être plus techniques et sur lesquels, faut pas hésiter à poser des questions, soit lors du parcours d'intégration, puis à terme, demander si c'est pas fait dans l'entreprise, à participer à des points équipe, à participer à des, j'en sais rien, s'il y a des bilans mensuels d'activité où on fait des rétrospectives, à y être invité pour comprendre les sujets, pour comprendre les problématiques et que tout ce qu'on fasse au niveau RH s'inscrive aussi dans ce business.
Ouais, mais ce que tu dis est intéressant parce que je pense que les collaborateurs seront ravis aussi qu'on leur pose des questions sur leur métier, et ça fait tout à fait le lien avec ce que tu disais au début, c'est-à-dire que on n'est pas dans une tour d'ivoire bloquée dans son bureau, et puis les salariés ou les opérationnels ou les gens qui travaillent dans les entrepôts par exemple, ils sont en bas, ils travaillent, et nous on est un peu je sais pas, le plus proche des dieux, donc du coup on met pas les mains dans le cambouis. Du coup, ça permet aussi de faire ce point qui est hyper important, celui de connaître sa population et d'échanger de manière régulière ouais. avec ses collaborateurs. Je crois que tu avais un dernier conseil pour Delphine qui débute.
Ouais, un dernier conseil qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est de se protéger. Se protéger, pour moi, il y a deux points importants. C'est que en tant qu'RH, parfois on va s'en prendre plein la gueule, ça va parler dans notre dos, ça va être pas mal de notre faute, et faut savoir que souvent c'est pas nous personnellement qui sommes visés, c'est la fonction, c'est ce qu'elle représente, c'est être le messager de la direction. Il peut y avoir des situations difficiles où c'est nous qui allons dire la procédure à suivre c'est ça, même si la décision à la base peut-être qu'on y a participé, qu'elle vient pas totalement de nous, mais c'est nous qui allons la personnifier. Donc on peut se prendre, vraiment ça peut être compliqué parfois et ça peut vraiment mettre en tension. Il faut être capable vraiment de distinguer, c'est ingrat, hein, mais de se distinguer de sa fonction. Et aussi, se rappeler qu'on est des humains, hein, on est des humaines hein, dans cette fonction RH. Hein. On peut aussi ressentir des choses, on peut aussi faire des erreurs. L'important, c'est voilà, de les reconnaître, de les assumer. Mais voilà, c'est vraiment de se protéger. Et puis de mettre des limites. Ça, c'est un deuxième point. Parce qu'en fait, c'est un métier, on peut vite se faire bouffer. Plus on est proche du terrain, en plus, plus on est proche de l'opérationnel, plus on peut se faire bouffer. On n'est pas des assistantes sociales, ni des psychologues. Lors d'un one-one, un salarié vient raconter tous ses problèmes familiaux ou autres, il faut réussir à mettre des barrières en disant « je t'entends, mais ce que tu me dis, je ne peux pas t'aider, là, c'est en dehors de l'entreprise que tu trouveras de l'aide ».
Ouais, parce que du coup, les gens, ils rejettent sur toi l'aide, en fait, que tu pourrais leur amener, qui n'est pas une aide liée à la vie en entreprise, finalement. Oui. Donc, je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui le prouvent que la population RH, elle est en souffrance depuis longtemps. Je pense que le point culminant, ça a été évidemment la gestion de la pandémie où l'intégralité de ce qu'il fallait faire, c'est... abattu de manière massive sur les RH qui ont dû gérer de multiples dispositifs nouveaux, le fait d'être en chômage partiel, retour au bureau, télétravail, etc., etc. Donc, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est aussi une fonction qui est ultra charnière dans l'entreprise. Et on l'a dit, le stéréotype rattaché à la fonction RH, c'est celui qui paye, celui qui embauche et celui qui vire. Sauf que c'est bien plus, hein, c'est bien plus que ça. Et pourtant, on oppose souvent, encore, toujours, les RH opérationnels, c'est-à-dire ceux qui feraient des RH, vraiment. Et puis, les RH stratégiques, ceux qui seraient un peu le upper east side de la RH, ceux qui vont lancer les réflexions et les projets. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette opposition, un peu de cette dichotomie?
Alors, cette opposition, bon, déjà, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Dans des très gros groupes, il peut vraiment y avoir des dichotomies, mais en général, dans les PME, enfin, de mon expérience de salarié, souvent l'un va avec l'autre. Et puis, le mix opérationnel et stratégique, c'est ce qui fait la richesse de notre métier, en fait. En tant que vrai généraliste, pour moi, ces rôles, ils sont complémentaires. Après, ça dépend. Il y en a qui vont plus rechercher de l'opérationnel, peut-être d'autres plus à travailler sur des points plus stratégiques, de construction et de changement. Mais pour moi, c'est assez complémentaire. Je suis peut-être un peu vieille école, mais c'est important pour moi de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre son métier et puis pour pouvoir, derrière, justement, être meilleur au niveau de la partie, on va dire, stratégique et réflexion. Dans ma vision, c'est valable pour les RH ou pour tout autre métier, hein, d'ailleurs. Commencer par mettre les mains dans le cambouis, puis d'avoir cette occasion, à un moment donné, de prendre du recul du coup, de pouvoir travailler sur des process, sur de l'organisation, sur du change et du social. C'est des sujets qui sont hyper intéressants et qui couplés à de l'opérationnel, rendent les postes hyper riches. Un point, c'est que maintenant que je suis freelance, donc je suis externe, j'interviens en tant qu'externe chez mes clients, je trouve ça beaucoup plus facile d'être objective sur la partie stratégique des RH. Je m'explique. Demain, je dis, ben là, la bonne solution, c'est de mettre en place un accord d'intéressement sur travailler les critères et proposer des choses. Je vais être plus juste et impactante parce que je serai pas jugée partie, parce que moi l'accord d'intéressement, peu importe ce qu'il y a dedans, je le toucherai pas. Donc en fait, c'est-à-dire que mon conseil et mon expertise va avoir plus de justesse et plus d'impact qu'en tant que salarié, on est plus jugé partie lorsqu'on travaille sur les points un peu stratégiques. Je sais pas si c'est clair.
Je trouve que c'est hyper clair pour deux raisons. La première, c'est que moi, je suis vraiment comme toi, c'est-à-dire que je suis persuadée qu'il faut mettre les mains dans le cambouis parce que c'est le seul moyen de comprendre l'organisation dans laquelle on travaille, de comprendre les contraintes qui pèsent sur les individus avec lesquels on travaille. Ça, pour moi, c'est la clé, c'est-à-dire que je ne conçois pas, en tout cas, c'est ma vision, hein, je ne conçois pas de ne pas être axée sur de l'opérationnel. Ça, c'est ma position à moi. Et je pense aussi que ça nourrit la réflexion et les actions qu'on mène avec des collaborateurs en entreprise. Et pour autant, on est souvent quand même confronté à cette question de posture dont tu as très bien parlé, qui toi aujourd'hui est un peu distendue, puisqu'en étant en conseil externe à une entreprise, finalement, tu as plus trop ce problème-là de posture sur la question de est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai pas un peu le cul entre deux chaises, est-ce que je prêche pas pour moi avant de prêcher pour les autres. Est-ce que tu as des clés que tu pourrais donner à nos auditrices pour gérer ce problème de posture?
J'ai identifié par exemple 5 exemples de problèmes de posture qu'on peut avoir, mais il y en a sûrement d'autres, et cela c'est plus issu de mon expérience. Le premier, ce serait d'être vu comme l'assistante du directeur ou comme la maman. D'ailleurs, c'est aussi lié à notre position. Je suis sûre qu'un homme qui est RH n'aura pas forcément ce problème-là de posture. Mais l'important, c'est de passer de cette posture-là à celle d'être la conseillère, d'être l'influenceuse RH, d'être le bras droit. Même si on est rarement décideur, c'est notre rôle de planter des graines, en tout cas pour être vue comme conseillère, bras droit. Donc, travailler sur la partie de la confiance, d'être un peu plus peut-être confidente que maman, d'ailleurs, auprès des managers, d'être orientée business, c'est des points qui vont aider justement à sortir de cette posture-là. Et l'autre point qui est aussi important pour sortir de cette posture, je pense, c'est d'avoir un vrai fit aussi avec le directeur ou le business partner avec lequel on travaille régulièrement. On méconnaît souvent la fonction RH. Et ça, on en a déjà parlé au début, hein, mais il faut du coup être avec les équipes, connaître ses populations, se faire connaître, c'est un point hyper important. Il faut être disponible, pour moi, s'intéresser aux autres, être capable de communiquer sur ce qu'on fait, être pédagogue pour expliquer. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important et qui va aider à vraiment exister dans l'entreprise. Un troisième problème que je vois, ce serait de se sentir centre de coup. On dit souvent les RH, c'est des centres de coup. Et ça aide pas à briller quand on se dit qu'on est un centre de coup. Alors que si on se sent une valeur ajoutée, une vraie ressource pour l'organisation, ça aide à gagner toute sa légitimité et à s'épanouir, en tout cas dans sa fonction RH. Et pour passer de cet état d'esprit de centre de coup à valeur ajoutée, accepter qu'on ne puisse pas chiffrer notre travail et le quantifier, le chiffrer en chiffre d'affaires. Quel est l'impact direct de la politique RH sur le chiffre d'affaires? Alors moi, je pense que je serais incapable jamais de chiffrer tout ce que j'ai fait. Et pourtant, ça a eu un impact indirect, voire très indirect, mais ça a un impact. Ça va être vraiment proportionnel aussi à la qualité des relations qu'on aura développées en entreprise. Meilleures seront les relations qu'on aura développées avec tout le monde, hein, je ne parle pas le top management ou la base de la population, hein, c'est avec tout le monde, toutes les relations comptent, et c'est cette qualité des relations qui va permettre aussi d'avoir plus de valeur ajoutée dans son travail.
Ben merci Delphine, c'était vraiment des super conseils. Il y a plein de points que je partage avec toi. Je pense que celui sur lequel je m'accorde le plus finalement et que je trouve assez fort, c'est, tu l'as hyper bien dit, c'est-à-dire de passer de maman à confident. Et je pense que c'est là aussi où souvent c'est compliqué en tant que RH, parce que tu l'as dit, on peut être vu comme un centre de coup, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mis à part à être pénible finalement, parce que c'est le rappel à la loi, parce que c'est le CSE, parce que c'est les entretiens, voilà. Du coup, ça, c'est vu comme une contrainte. Et finalement, d'être là en tant que confident et pas comme maman, parce qu'on n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de la planète, on est là pour trouver la meilleure solution possible pour que cette entreprise elle avance de manière régulière. C'est hyper cool, je trouve, comme clé. Je te remercie pour ça.
C'est de se dire, en fait, il faut que tout le monde regarde dans le même sens. Hein. On ne sait pas, deux camps qui s'affrontent, en fait. C'est une équipe globale. Alors, c'est un peu bisounours, c'est utopiste de le dire comme ça, mais je ne peux pas concevoir les RH différemment. L'idée, c'est que tout le monde regarde dans le même sens. Évidemment, c'est des gens qui ne veulent jamais regarder dans le même sens. Et à un moment donné, ils sont peut-être pas au bon endroit, mais donc là, on sort du monde des bisounours. Mais vraiment de faire qu'on regarde dans le même sens. Et pour les clés pour être là-dedans, il y a d'abord, on va trouver déjà une entreprise qui nous corresponde, avec laquelle on est aligné, avec laquelle on peut être intègre avec soi-même. Et ça, c'est un point déjà important. Et l'autre point, c'est de faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Et j'ai un exemple d'être, par exemple, d'être entre le marteau et l'enclume que j'ai vécu d'un manager qu'on va appeler Simon, qui avait des problèmes, qui avait un manque de compétences managériales, et son équipe se plaignait beaucoup et est venue se plaindre directement à moi en m'expliquant, ils sont venus un par un m'expliquer les problèmes qu'ils avaient. Donc moi j'étais vraiment dans cette posture d'écoute et en me disant oui ça va pas. Sauf que je ne pouvais pas dire, moi, que je savais qu'il y avait déjà un plan d'action qui était pris sur le manager. Je ne pouvais pas communiquer tant qu'on n'avait pas recruté le suivant, ou d'abord tant qu'on n'avait pas donné toutes les chances possibles à ce manager pour y arriver, puis après recruter le suivant, etc. Je pouvais pas dire ça. C'est des infos, je ne peux pas parler de la carrière du manager avec son équipe. Donc là, on est toujours bloqué. On a cette confidentialité, cette déontologie RH, quelque part, qui nous bloque sur notre communication et qui fait qu'on est vraiment entre le marteau et l'enclume. Et moi, ma technique, c'est toujours de faire en sorte que, dans une relation, il y a toujours deux personnes, au moins deux parties, et dire, vous, en tant qu'équipe, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux? Sur quoi, moi, je peux vous aider en tant qu'équipe, si on met de côté le problème Simon? Prenez un peu les choses en main, vous, en tant que personne. Si demain, il y a un autre manager qui venait dans cette équipe et que vous restez dans cet état d'esprit-là, ça ne marchera pas non plus. Par rapport aux infos qu'on a et à notre positionnement, l'idée, c'est aussi de dire, pour que tout le monde regarde en même sens, c'est aussi que chacun prenne aussi ses responsabilités.
Je le crois, en effet, que c'est comme ça que ça va avancer. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se mette dans la même direction, regarde dans la même direction, prenne ses responsabilités. Alors, certains ont plus de responsabilités à prendre que d'autres. Je ne dis pas que la direction et les PDG doivent se désengager au profit d'un engagement des salariés, mais c'est bien un engagement conjoint. Alors, on parle beaucoup de la quête de sens au travail. Alors, certains d'entre nous, moi, je m'inclus dedans, je me questionne toujours sur le sens que je donne à ma vie. Mais pour d'autres personnes, c'est pas du tout le cas. Mais c'est très bien aussi. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais questionnement à avoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, une fois de plus, ce sont les RH qui sont les mains dans le cambouis. Alors, quel est ton avis sur la question du sens et de l'engagement des salariés?
Alors, mon avis. Alors, comme tu l'as dit, le sens, c'est quelque chose d'assez personnel, finalement. Et en plus, moi, je dis souvent quand je communique, mais en RH, chaque cas est particulier. Pour le sens, pour moi, c'est pareil. Est-ce qu'une entreprise peut apporter un sens à tous ses collaborateurs? Un seul sens, je ne sais pas, ça me paraît un peu présomptueux. Pourquoi est-ce que toi, tu te lèves le matin motivé pour aller bosser? Qu'est-ce qui fait? Quel va être ton moteur? Est-ce que ce sera le même que celui de ta collègue à côté de toi ou celui qui va être dans un service complètement différent? Pour certains, peut-être que ça va être juste d'avoir un salaire qui soit juste, fiable et pérenne. D'autres vont chercher un point sur peut-être la mission de l'entreprise, qui ont envie, avoir un besoin qui soit en accord avec leurs valeurs écologiques, par exemple. Et pour d'autres personnes, ça pourrait être le besoin d'acquérir de l'expertise technique et de relever des challenges techniques. Voilà, le sens peut être tellement varié que, du coup, pour moi, ça se travaillerait finalement à deux niveaux. Le premier, ce serait sur la culture d'entreprise. Au niveau global, ça, c'est celui qu'on connaît le plus, dont on parle, je pense, le plus en ce moment. Et puis, en fait, pour être vraiment impactant, il faudrait être capable de l'accompagner au niveau individuel. Je te parlerai, dans ce cas, plutôt d'engagement individuel pour connaître les moteurs de chacun. Et puis, la connaissance de ces moteurs, en fait, ça permettrait aussi d'alimenter la culture d'entreprise et donc la politique RH. Et dans les entreprises classiques, on va dire la plupart des entreprises, c'est le rôle du middle management de connaître ces moteurs qui font que chacun se lève chaque matin. Et du coup, là, on voit directement le lien entre le RH et le manager. C'est-à-dire que, vu que c'est le middle management qui va prendre ces informations-là, d'avoir des moments pour les partager et s'en nourrir pour alimenter justement la politique RH et avoir des actions et une communication qui soit en phase aussi avec les besoins du terrain, ça, c'est essentiel.
Je crois que tu as raison. Finalement, c'est pas tant une question de sens que d'engager les collaborateurs dans le fait d'être au travail. Et là, une fois de plus, c'est le lien que tu vas réussir à faire en tant que RH avec les managers, la communication que tu vas faire de manière régulière pour, si je comprends bien, aller chercher par leur échange avec leurs équipes quels sont les drivers, les leviers de motivation des équipes et insuffler ça dans les programmes de développement RH ou dans les actions que tu vas mener pour engager finalement la majorité possible, le plus grand nombre possible de collaborateurs. On parle souvent de biais dans le recrutement, mais je pense que c'est aussi le cas sur des fonctions RH, celles que tu as pu vivre et que tu vis encore. Quel conseil tu donnerais aux RH qui se sentent quelquefois victimes de leurs biais ?
Premier conseil, peut-être le plus important, c'est de savoir que ça existe, les biais, d'aller se renseigner. Il y en a énormément, hein, je ne sais plus, je crois qu'il y a une carte qui existe des biais cognitifs, il y en a peut-être plus de 80, plus de 100, j'en sais rien, je ne suis pas experte du tout dans le domaine, mais au moins connaître peut-être les 10 principaux et savoir que ça existe, et ça permet d'avoir une prise de conscience et puis de tenter de les reconnaître quand on les utilise. On sommes des machines à interpréter la réalité, en fait, au travers de nos biais. Le fait de juger rapidement un collaborateur sur peu importe son apparence, sur quelque chose qu'il a dit, sur quelque chose qu'on nous a dit, sur une action à un moment donné, ça va sûrement mettre en action certains biais et ça va nous empêcher d'être objectifs sur la vraie valeur de ce collaborateur. Moi, je me répète toujours, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et alors, c'est peut-être pas le meilleur moyen de corriger les biais, mais ça en est un. En fait, et c'est simple, c'est du bon sens, c'est du basique, mais voilà, je pense que j'ai appris ça quand j'embêtais ma sœur et que mes parents me disaient fais pas à ta sœur ce que tu voudrais pas qu'elle te fasse. Ben, je me le dis encore au boulot aujourd'hui. J'ai eu un des meilleurs recrutements que j'ai fait, une nana géniale avec qui j'avais plein de points communs. On s'est hyper bien entendu. Bah, ça a été aussi la pire rupture de contrat que j'ai eue. Quelqu'un, en fait, peut-être lié à des biais comme des biais de halo ou des biais d'appartenance où je me reconnaissais en elle sur certains points. Bah, y a d'autres choses que j'ai absolument pas vues, et notamment que ça se passait pas bien avec l'équipe et qu'en fait elle était en limite de burn-out et elle est partie en burn-out d'ailleurs, et ça a été et ça c'est des choses qu'on était deux, son manager et moi, on n'a rien vu du tout, et je pense qu'il y avait tellement de capital sympathie pour elle que ça a masqué tout le reste et qu'on n'a pas su lire des signaux faibles qu'elle a dû envoyer liés à notre interprétation, parce qu'on n'aurait pas voulu voir que ça pouvait mal se passer en fait pour cette personne. Et ça, ouais, c'est des choses qui sont difficiles. On reste humain, hein. On peut pas tout voir, on n'a pas des super pouvoirs, mais à minima éviter les stéréotypes. Toujours se rapporter aux faits et avoir un maximum d'objectivité et éviter l'émotionnel et le jugement.
Ben ça, je pense que ta petite phrase, alors après chacune a la sienne, hein, je la trouve très bien et je pense qu'on peut on peut se la répéter. Ce que je ferai, c'est que je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers un site qui, en effet, a répertorié une grande majorité des biais cognitifs. Alors, c'est important de savoir comment ils se construisent, tu l'as expliqué, hein, c'est bien on est une machine à interpréter, donc des fois, on va interpréter avec le mauvais filtre. En fait, le biais cognitif, c'est un filtre qui va nous donner une information sur la réalité qui n'est pas celle qu'on devrait avoir. Donc ça, c'est un fonctionnement basique et une explication simple du biais cognitif. Mais dans cette ressource, il y aura à la fois la liste des biais, surtout comment on peut un peu s'en prémunir, ou en tout cas comment on peut essayer de les combattre. Déjà, je pense que le premier point, c'est de se dire, tout le monde a des biais, hein, il n'y a pas que Jean-Paul et Janine, hein, nous-mêmes, nous ne sommes fait que de biais, et en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour les traiter.
Je me permets juste de déborder un petit peu du sujet du biais, mais je voulais juste partager, je me dis c'est l'occasion, mais une phrase que j'adore, j'ai un petit post-it sur mon mur avec cette phrase, elle vient pas du tout de moi, hein. Je l'ai lu sur le site de l'organisme Toscane Accompagnement, qui dit « Le meilleur de l'homme apparaît toujours lorsque les circonstances s'y prêtent ». On ne peut pas agir sur les personnes directement. Chacun pense ce qu'il veut, en fait. Hein. Chacun agira comme il veut, prendra la responsabilité qu'il souhaite. Mais par contre, on peut agir, nous, en tant qu'RH, sur les circonstances, grâce à la qualité des relations qu'on aura développées, grâce aux outils, aux process RH qu'on a en place, grâce à la confiance qu'on aura avec les équipes et avec les managers. On peut avoir un impact sur ces circonstances pour... pouvoir permettre au meilleur de l'homme d'apparaître et faire en sorte que... moi, je trouve que c'est là que ça donne du sens à notre métier aussi.
Quand on a préparé cet épisode, tu as dit une phrase très forte et qui, je suis sûre, elle va parler à beaucoup de nos auditrices. Tu m'as dit, il faut choisir ses batailles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette troisième phrase clé, du coup ?
Je l'ai dit plusieurs fois, nous, en tant qu'RH, on a un rôle d'influence, je dirais même de jardinier. C'est de préparer le terreau pour qu'il soit fertile, pour que les pratiques RH germent et que les personnes aussi s'épanouissent dans l'entreprise. Je file une jolie métaphore. Et pour que ce terreau il soit fertile, Il faut plusieurs ingrédients, dont de la confiance. Si on travaille sur un, si on choisit de travailler sur un sujet qui sur un terreau qui est pas fertile, on va aller droit dans le mur en fait. Je vais prendre un exemple pour illustrer, ce sera peut-être plus parlant. Par exemple, moi je suis fervente, je crois au pouvoir du feedback. Si demain j'accompagne un client sur lequel il n'y a aucune culture du feedback et que j'arrive en disant le problème chez vous c'est que il n'y a pas de feedback, s'il y avait du feedback ça se serait mieux, je vais aller droit dans le mur en fait. Ça va pas marcher. Et pourtant, c'est une bataille qui me paraît primordiale pour que ça fonctionne mieux, en tout cas dans cette entreprise. Mais je vais aller droit dans le mur. Alors que si je vais travailler sur d'autres sujets, peut-être qui seront plus accessibles, qui seront qui seront dans les priorités forcément de l'équipe dirigeante, qui vont répondre aussi à quelques demandes sur lesquelles on peut avoir des quick wins, des demandes de collaborateurs sur lesquelles on peut avoir des quick wins. Là, je vais bâtir de la confiance, je vais commencer à produire des choses, je vais créer une relation de qualité. Et là, c'est ce que j'appelle avoir un terreau fertile. En fait, c'est toutes ces actions et je vais choisir sur quoi je vais travailler et mettre les priorités. Alors, bien sûr, il y en a qui vont répondre au business et aux ambitions des directeurs. Il y en a qui vont répondre à des points qui sont été remontés par les équipes. Mais après, parfois, il y a besoin de changements qui sont encore plus en profondeur et il faut attendre que l'organisation soit prête à les accepter, ces changements-là, et avoir parfois des changements de paradigme aussi. Et peut-être que, je n'en sais rien, hein, s'il faudra attendre peut-être plusieurs années avant de pouvoir implémenter une culture du feedback chez ce client hypothétique, le temps qu'il soit prêt, en fait. Parfois, on a des idées au niveau RH, on a envie de mettre en place des choses. On entend beaucoup parler de choses super modernes, 100% télétravail ou la semaine de 4 jours. Mais est-ce que vraiment les entreprises sont toutes prêtes à aller là-dedans? Non, pas toujours en fait. Donc, il faut aussi se dire qu'il faut avoir des actions qui soient adaptées à là où en est l'entreprise et puis planter des graines pour l'amener vers peut-être plus de modernité ou une façon différente de faire qui pourrait rendre peut-être l'entreprise encore plus agréable au travail et pour attirer plus de talents, par exemple.
On va finir par la dernière question, c'est la question signature de PostBoost et très souvent, c'est celle qui est le plus compliquée pour mes invités. Donc, je te la pose quand même. C'est quoi pour toi, Delphine, une PostBoost?
Un carré de chocolat Milka au lait. Oui, non, après, non, vraiment, j'aime bien le chocolat, mais sinon, des échanges, en fait. Moi, peut-être vous l'avez remarqué, moi, je suis très dans le relationnel et un échange, soit pour me déconnecter totalement de là où je suis et me concentrer sur d'autres sujets ou parler avec quelqu'un, je sais, qui va m'amener de l'oxygène ou de la déconne ou d'autres sujets complètement différents, ou alors parce que parfois j'ai besoin de débriefer pour me calmer le cerveau, ça me recharge en fait, je débriefe, ça me recharge et après je repars booster.
Cool, merci Delphine pour cette double post boost et la première m'a beaucoup plu, je dois avouer. Comment et où on peut te suivre, Delphine?
Sur LinkedIn, du coup, Delphine Pecaut. P-E-C-A-U-T, il n'y a pas de L ni de D.
Ok, parfait. Merci beaucoup Delphine, j'étais ravie de t'accueillir dans PostBoost. Et puis, merci de tous ces partages et ces conseils. Puis voilà, si vous avez envie de continuer à discuter avec Delphine, de voir quels sont si vous partagez les mêmes conseils, si vous avez des idées, des exemples, voilà, n'hésitez pas. Vous l'avez compris, la deuxième PostBoost de Delphine, c'est parler et échanger. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup de ta disponibilité,
merci
Delphine.
Merci Aurélie.
J'espère que cet épisode t'a plu. Tu le sais, le meilleur moyen de faire connaître PostBoost, c'est à la fois d'en parler autour de toi. Et puis aussi, si tu veux rien louper, tu peux t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour être notifié du prochain épisode. Je te dis à bientôt.